primaire dans l'histoire de notre pays, on n'a jamais eu une opération kamikaze de ce genre-là. On ne peut pas dire que c'est la première fois que le Mijao attaque le Niger. Le Mijao, c'est un élément de ACMI. Et une opération de ce type prouve qu'il y a ACMI derrière Mijao. Le Mijao ne peut être que le bras armé de ACMI.
L'une des deux attaques, hein, c'était contre un camp militaire à Agadez. Alors c'est quand même incroyable que ces terroristes puissent comme ça rentrer dans un camp militaire et faire autant de dégâts. La sécurité n'est-elle pas bien assurée dans ces camps ?
Absolument, il y a une sécurité dans ces camps. Mais vous savez, avec le sud libyen incontrôlable, suite à la crise libyenne, tout le sud libyen est contrôlé par une bande armée. Et surtout qu'avec l'offensive française et les forces africaines, on partage une frontière très basse, une force de défense et de sécurité, n'ont pas assez de moyens pour contrôler tous ces vastes territoires. Il y a eu des infiltrations. Malgré la présence de drones américains et puis français, ce qui a failli, c'est le renseignement humain pour aller jusqu'à oser attaquer la deuxième zone de défense du Niger, où est concentré l'essentiel des forces de sécurité.
Donc pour vous, si ça a été possible, c'est parce qu'il y avait des complices?
Absolument. Le kamikaze, d'abord, il a compris que le checkpoint se trouve à 600 mètres de l'usine. Il s'est habillé en tenue militaire. Il sait que quand c'est le militaire, il ne s'arrête pas au checkpoint. Ça fait un bout de temps qu'ils étudiaient comment perpétrer leur attentat.
Mais l'usine d'Areva Arlit, elle est aussi gardée par des forces françaises.
Mais ils ne sont pas tous les postes de sécurité. Il y a quand même une défense de sécurité nigérienne.
Donc pour vous, quand même, globalement, la sécurité était bien organisée là où les attaques se sont produites?
Absolument. C'est des gens aguerris. C'est vraiment des gens qui ont une expertise. Ils ont profité d'une chose, c'était au moment de la prière, là où il y a une baisse de vigilance. En outre, et c'est au moment où la troupe s'organisait devant la caserne pour qu'elle parte assurer la relève.
Et à quoi servent les drones dans tout ça? Est-ce que là aussi, il n'y a pas quelque chose à revoir?
Les drones ne peuvent pas surveiller vraiment les personnes de façon isolée, chaque individu. Le Mijao est composé en grande partie des éléments des pays de la sous-région, des Nigérians, des Béninois, des Nigériens, des Maliens. Difficilement identifiable parce que c'est des gens qui vivent dans ces communautés-là, ces kamikazes, soit ils étaient là depuis longtemps, ils ont pu s'intégrer, ou bien ils sont passés par un autre pays.
Vous pensez que les auteurs de ces attaques ne sont pas du Niger?
Non, pas du tout. Moi, je pense pas. Ils peuvent avoir des sous-traitants. C'est pour cela que je vous parlais tout à l'heure de complicité. Dans nos traditions, nous, on ne connaît pas quelqu'un qui vient parce qu'il est fou de Dieu, il va se mettre une ceinture et se faire exploser pour la cause d'Allah.
Donc il pourrait venir soit de Libye ou aussi du Mali, vous pensez?
Vous savez, la frontière avec le Mali, elle est très vaste. Et puis c'est une chaîne montagneuse qui va jusqu'en Algérie. Il peut venir chez nous. Donc peut-être, en amont, on n'a pas pris les dispositions, le renseignement humain, et les drones et les avions de reconnaissance, la surveillance à la frontière, tout ça, c'est pas, les terroristes ne vont pas venir en groupe. Ils viennent généralement de façon isolée, 3-4 personnes.
Et puis vous partagez aussi une frontière avec le Nigeria.
Oui, absolument. La secte Boko Haram, c'est allégeance à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Donc c'est toute cette bande-là qui peut infiltrer toute la zone sahélienne sans qu'il y ait de problème.